On va s'offrir aussi une balade dans l'une des îles du Finistère, l'île de Bas, au large de Roscoff. Et malgré cette position au nord, il existe sur cette île un jardin botanique exotique qui a beaucoup souffert de la tempête Ciaran, le jardin Georges de la Selle. Il va s'en relever, enfin du moins on espère, car il en a vu d'autres. Ce jardin est l'œuvre d'un homme, Georges de la Selle, dont l'autrice Guénaëlle Daujon a fait un livre, Le Jardin de Georges, paru aux éditions Intervalles. C'est son deuxième livre après Là-bas, le roman du Nil, qui racontait sa tentative d'installation sur l'île. Guénaëlle Daujon donc continue à se passionner pour l'île et à en faire des livres.
Je suis bretonne d'origine, mais j'ai été élevée, j'ai grandi à Paris, autour de, dans la banlieue parisienne. Et il y a quelques années, j'ai quitté cette ville-là pour aller vivre à l'île de Bas. Je suis restée 6 ans là-bas. Je suis allée avec mes enfants, mon mari de l'époque. On a vraiment tout fait pour s'intégrer sur l'île et on a vécu sur l'île donc pendant 6 années. Ça c'est le sujet de mon entre autres le sujet de mon premier livre. Et là, finalement, au bout de 6 ans, il a fallu repartir, comprendre que c'était pas si facile d'adhérer à une île et qu'on n'était pas forcément de là. Mais en repartant, j'ai mis dans mes valises une histoire, et cette histoire de Georges de la Selle, qui est un homme qui, lui, alors j'allais dire comme moi, mais un peu comme moi, 100 ans avant, avait quitté Paris pour venir s'installer à l'île de Bas. Lui, avec ce projet fou, visionnaire, pionnier, de transformer une lande de sable en un jardin exotique, foisonnant, magnifique. Il a eu cette vision-là et il a axé sa vie sur cet unique projet. Et en partant de l'île, j'avais envie, c'était assez douloureux pour moi de quitter cette île, et j'avais envie de garder un lien avec l'île. Et l'histoire de Georges et la manière dont Georges, lui, s'est approprié l'île, a vécu dans cette île et a transformé l'île, alors un peu à sa manière, m'a profondément inspirée. Et c'est pour ça que j'ai eu envie, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres raisons, mais envie de me plonger dans cette histoire et dans cette biographie.
Donc le Jardin de Georges, c'est à la fois un roman et un documentaire, si on veut. Quelle est la part de réel dans ce que vous décrivez de la vie de Georges de la Selle ?
Alors, au départ, moi, je viens plutôt du monde de l'audiovisuel. Donc, mon projet, c'était de faire un documentaire. Quand je suis journaliste aussi, et j'avais fait un papier sur l'exhumation des ossements de Georges de la Selle dans le jardin donc de l'île de Bas. Et lors de cette cérémonie, j'ai rencontré les membres de l'association du jardin de Georges de la Selle, et ils ont commencé à me raconter l'histoire de ce lieu, de ce jardin qui, comme je disais, lorsque j'habitais sur l'île, m'avait aussi beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup nourri. Donc j'avais construit comme ça une sorte de relation assez dense et assez forte au jardin quand je vivais sur l'île. Lorsque les membres de l'association m'ont donné ce carton avec des photos, des carnets, des cartes postales, des plans, des dessins de Georges de la Selle, j'ai été très très touchée par l'histoire de cet homme, et particulièrement par une petite carte postale où il est à la fin de sa vie, son écriture est assez tremblante et il dit qu'il est venu là, qu'il a construit ce lieu, mais qu'il n'a plus de famille. Et je trouvais ça fou de penser que cet homme-là, donc là on est en 1930-35, se dit qu'il est dans une, voilà, il ressent une immense solitude, il n'a plus de famille, il est complètement seul sur cette île. Et là, moi, on était dans les années 2008, lors de cette célébration, il y avait énormément de monde, beaucoup de ferveur autour de son histoire, et j'ai eu envie de raconter son histoire. Au départ, par le biais de ses archives, donc plutôt par le biais du documentaire, j'avais trouvé un producteur, on était parti là-dessus, et puis finalement, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était complexe de faire un film, et l'éditeur Armand Saint-Sauveur de mon premier livre m'a dit « Écoute, en fait, c'est normal que tu n'arrives pas à faire un film, puisque c'est un livre », et donc on est reparti, on a retransformé toute cette matière documentaire en matière littéraire, ce qui veut dire que dans le livre, c'est vraiment ce qu'on appelle, alors on appelle ça, je l'ai appris après, une exofiction, c'est-à-dire que c'est une biographie romancée. Donc, tous les points de sa vie sont réels. Je mêle à la fiction des cartes postales, des lettres, des phrases comme ça que j'ai pu prendre dans ses correspondances et dans ses carnets, mais je le fais parler, je le fais ressentir, je plonge, si vous voulez, littéralement dans sa tête et dans son corps. Et forcément, ben là, il y a de l'imaginaire. Et puis aussi, entre les archives, on peut pas. Une vie, c'est immense, c'est tout petit, mais c'est aussi immense. Et entre les différentes archives que je pouvais avoir, et ben évidemment, il y avait plein de blancs. Et donc, j'ai comblé les blancs par l'imaginaire.
Il y a un angle quand même qui est le jardin, puisqu'il a passé combien d'années de sa vie à constituer ce jardin exotique à l'île de Bas ?
Alors, en fait, il découvre l'île de Bas en 1897. Lui, il est né en 1861, donc il a 37 ans. Il vient d'avoir 37 ans. Il vient passer l'été. Le mois de juillet 1897, et en décembre de la même année, il achète la pointe de la pointe est de l'île, donc vraiment cette lande de sable battue par les vents avec les embruns. Enfin, en gros, il peut pas y avoir pire endroit au monde pour construire un jardin. Et il va jusqu'en 1918 construire ce jardin, mais depuis Paris, parce que lui, il est assureur à Paris. Ça qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est qu'en fait, c'est aussi le parcours d'un homme qui est au départ un amateur de la botanique et qui va se retrouver être un véritable pionnier. Donc, il a toute une transformation aussi par le biais de la botanique. Et il ne devient pas professionnel dans le sens où il n'arrive pas de son vivant à faire que le jardin soit visité et pour son plus grand malheur, en fait, parce qu'il aurait voulu le partager, mais il devient véritablement un pionnier de la botanique. En 1918, il apprend qu'il a la tuberculose, qui est la maladie qui a tué sa mère et sa sœur, et à partir du moment où il apprend qu'il a la tuberculose, il quitte son travail, il vend sa maison d'Amiens et il vient dans son jardin. Donc à partir de 1918, il s'installe définitivement, enfin il s'installe sur l'île, persuadé qu'il va mourir, puisqu'il a vu sa mère et sa sœur mourir, persuadé qu'il va mourir, et en fait il meurt en 1944. Donc là aussi, très certainement, le jardin, et c'est ce que je développe dans le livre, là, si vous voulez, nourri à tout niveau et, je pense, est évidemment guéri. Alors, concernant les plantes, lui, il découvre la botanique à Paris par le biais d'une rencontre d'une femme assez extraordinaire qui s'appelle Mélanie de Villemorin. Donc là, c'est vraiment la famille Villemorin, ses grands grainetiers. Ils ont encore un magasin sur Quai de Seine à Paris. Et à cette époque-là, les Villemorin, c'était vraiment un empire. C'est-à-dire que c'était des gens qui sont les premiers à avoir commercialisé les graines. Ils avaient des serres, ils avaient un catalogue de plantes. C'était des gens qui étaient des passionnés absolus de la botanique. Et on est en plein dans à l'époque coloniale. À l'époque, la France est une énorme puissance coloniale. Et un jardin, c'est un enclos pour préserver le meilleur. À l'époque de Georges Vasselle, le meilleur, ce sont les plantes qui viennent d'Afrique, du Mexique, enfin de toutes les colonies. Il y avait des jardins d'essai qui acclimataient les plantes d'ailleurs en France pour pouvoir les commercialiser ici. Du coup, ça a aussi été compliqué et complexe de se plonger dans cette époque-là parce que, vu d'aujourd'hui, où on est vraiment en train de déconstruire tout ce qui est autour du colonialisme, là, forcément, quand on s'intéresse au jardin, on est aussi plongé dans cette époque. Donc, c'est par eux qu'il avait les graines. Et puis aussi, le monde de la botanique, c'est un monde extrêmement généreux. Donc, à partir du moment où il y a eu des articles sur lui, où il a commencé à se faire connaître, il recevait, en tout cas de toute la France, mais aussi du monde entier, des graines, des gens qui étaient extrêmement curieux, qui avaient envie de l'accompagner dans son désir et qui voulaient voir jusqu'où ce jardin avait la possibilité d'acclimater des graines du monde.
Le jardin de Georges de Guénaël Daujon est paru aux éditions Intervalle. Et Geneviève Robin, la comédienne qui nous lit des extraits de livres, de poèmes, de romans, de biographies, va justement nous lire un extrait de ce livre.
Extrait du livre de Guénaël Daujon qui a pour titre « Le jardin de Georges » aux éditions Intervalle. Le premier été 1918 est au-delà de toutes ses espérances. L'immersion botanique nourrit son être le plus profond, le plus abîmé. Georges ne vit qu'à l'extérieur. Happé jusqu'au soir, par les odeurs, il fit l'ombre du soleil et la magie du temps. Guidé par son seul instinct, il marche entre les plantes, observe, regarde, note sur son carnet les choses à faire. L'état des lieux est sévère. Le vent a séché la terre, le soleil l'a cramée. Elle réclame du soin, de l'apport, de l'engrais. Son potentiel hydrogène est bas. Le sol s'est appauvri. Les livres de botanique suggèrent de l'amender de crottins, d'algues, d'os, de tourbe, de paille. Georges a de nouveaux outils à acquérir, des plantes à déterrer, des mariages malheureux à revoir, des associations impossibles, voire toxiques, à réorganiser. Les ronces s'entrelacent dans les aubépines et l'ordre de cette cosmogonie est à réagencer complètement. Il écoute les pulsations et l'orchestration du lieu. Cherche, trouve, comprend ce que le jardin veut. Comme dans toute histoire d'amour, les premiers corps à corps sont ardents. Pour entretenir seul, à 57 ans, 3 hectares, Georges voudrait ne plus avoir à manger, ni à dormir. La botanique est considérée depuis l'Antiquité comme un appendice de l'art de guérir et Georges, au jardin, oublie le diagnostic du médecin. Sa seule stratégie est d'avancer pas à pas, mètre après mètre, comme sur le front de la guerre. Petit à petit, son corps se muscle, les courbatures aux bras et aux cuisses se dissipent. Les ampoules aux mains ne l'empêchent plus de bêcher. La sueur dans le cou, les ongles noircis de terre, il se découvre une force physique insoupçonnée. Au plus près du sol, Georges se contorsionne, le corps allongé, étendu comme une araignée, un pied en appui sur une pierre, une main à terre, les fesses en l'air au-dessus des plates-bandes, il se courbe, se rétracte. Il travaille. Penché, il cherche l'équilibre. Il voudrait que son corps rétrécisse ou que ses membres soient extensibles. Ses jambes sont inutilement longues quand il faut les plier pour creuser ou ridiculement courtes quand il faut enjamber un massif, bêcher, élaguer, cisailler. Il est ému aux larmes en retrouvant un citronnier derrière des broussailles ou la hampe bleue d'un delphinium encore vivant sous des taillis. Il pioche, transplante, taille, sauve tout ce qui peut être sauvé. Surpris par le déclin du jour, il peste contre le peu d'heures que compte une journée. Il est là, au cœur du vivant. Il s'oublie. Le soir, à sa table, à la lumière de la lampe à pétrole, il étudie les arbres, les graminées, les tourbières, toutes les plantes qu'il rencontre et veut fouler de ses pieds. Chaque jour, ses actions s'enchaînent. Son pied enfonce la pelle. La croûte terrestre résiste, puis, craque, libère une odeur sauvage. Georges multiplie les acrobaties, monte à nouveau aux arbres, comme quand il était enfant. Il n'a plus peur. Il est porté, élevé. En hauteur, le vent caresse sa nuque. Alors, il tremble de plaisir. Il travaille pour le meilleur, pour que le jardin advienne. Il l'observe, dialogue, apprend à regarder autrement. Il y a tant à voir, une infinité de petites choses cachées et tirées de l'invisible. Il travaille pour la première fois une matière vivante, il la sculpte. En se penchant vers la terre, il entend ses besoins, voit ses manques, plonge ses mains, il donne tout ce qu'il peut. Ce qui n'est pas donné est perdu. Chaque jour vaut de l'or et le jardin reprend forme. Les nuits du premier été, certains soirs, il reste dormir sous les pins, incapable de bouger, transi par la beauté des petits points lumineux scintillant dans le ciel qui clignent pour lui. Il respire la totalité du monde. Inspire, espère, lui souffle le jardin. C'était un extrait du livre « Le jardin de Georges » de Guénaël Daujon aux éditions Intervalles.